l'Iran lance deux navires de guerre. Ansar Allah a attaqué un centre de sécurité du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi. L'Union africaine condamne l'attaque terroriste contre des soldats burundais en Somalie, menée par les Chebab. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le contre-amiral Shahram Irani a annoncé la construction de deux destroyers, Zagros et Dama 22, et leur lancement bientôt. Le commandant de la marine iranienne a affirmé que les destroyers Zagros et Dama 22 sont censés rejoindre le corps opérationnel de la marine. Nous devons effectuer leurs tests complets et transférer les informations collectées au corps industriel et scientifique. Le contre-amiral Shahram Irani, déclarant que jusqu'à présent, 82 flottes ont été envoyées en eau libre au cours de ces 13 années, a déclaré « Nous avons poursuivi notre voyage avec la puissance et la confiance en soi, en regardant vers l'avenir et en gardant un œil attentif sur l'ennemi. Nous avons une présence polyvalente. La lutte contre les pirates fait partie du travail. » De même que nous effectuons nos missions commerciales pour lesquelles nous arborons des drapeaux et visitons les pays voisins. Dans une autre partie de son discours, se référant à la nature stratégique de la marine de l'armée iranienne, le contre-amiral Shahram Irani a déclaré « La marine de l'armée de la République islamique d'Iran est située à la périphérie de la défense du pays et est stationnée à des milliers de kilomètres des frontières de l'Iran. Cette capacité de mouvement et d'action est l'œuvre des équipements produits à l'intérieur du pays » ce que nous devons aux jeunes savants de l'Iran. Ansar Allah yéménite a lancé mercredi 4 mai une attaque contre un centre de sécurité du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi dans la province de Taïs, dans le sud-ouest du Yémen. Les forces armées yéménites ont utilisé un drone chargé d'explosifs pour cette attaque contre le siège des forces de sécurité pro-Hadi dans l'est de Taïs. Plus de 8 membres de ces forces ont été blessés lors de cette attaque. L'occupation américaine a transporté un convoi de camions-citernes chargés du pétrole syrien volé et du matériel militaire vers sa base à l'aéroport de Kharab al-Jir dans la banlieue d'Al-Yaroubiya, à destination de l'Irak, via le passage illégal d'Al-Walid. Des sources locales ont indiqué à la correspondante de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un convoi de 50 véhicules, dont la plupart sont des camions-citernes chargés du pétrole syrien, et un certain nombre de camions transportant des artilleries et du matériel militaire, accompagnés de 8 blindés des forces d'occupation américaines, s'était dirigé depuis la zone de Tel Amis, dans la banlieue est de Osaka, à l'aéroport de Kharab al-Jir, dans la ville d'Al-Yaroubiya, que l'occupation prend comme une base. Les sources ont souligné que les véhicules s'étaient arrêtés à l'aéroport de Kharab al-Jir pour se diriger ensuite vers le passage illégal d'Al-Walid. Un certain nombre d'hommes armés de la milice des FTS liés à l'occupation américaine ont été tués et blessés dans des attaques séparées contre leurs véhicules et points de contrôle dans la banlieue nord de Deir ez-Zor. Des sources locales ont indiqué aux correspondants de Sana'a que des hommes armés inconnus avaient attaqué aux armes automatiques et aux obus RPG, un point militaire de la milice, dans le village de Sajjar, au nord de Deir ez-Zor, faisant des tués et des blessés parmi les éléments de cette milice. Dans le même contexte, des sources locales ont indiqué que des inconnus avaient visé aux armes automatiques un véhicule militaire des FTS dans le village de Raiba Sharia au nord de Deir ez-Zor, faisant tuer et deux blessés parmi eux, alors que des inconnus avaient visé avec un engin explosif un autre véhicule des FTS près du village d'Azaba, faisant un élément tué et un autre blessé. Toujours en Syrie, lors d'une réunion tenue dans le sanctuaire d'Abu Zar al-Rifari, dans la zone d'Al-Marj, entre les deux villages occupés de Masada et Majd al-Shams, les Golanais ont indiqué que l'occupation tente par tous les moyens à mettre en œuvre son plan sur les terres agricoles, soulignant qu'après avoir épuisé tous les moyens, les Golanais n'ont de choix que la confrontation sur le terrain pour avorter le projet, quels que soient les sacrifices. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, ils ont averti que l'occupation israélienne tente à travers le plan des turbines éoliennes de les expulser de leurs terres pour s'en emparer. Les Golanais ont organisé le vendredi dernier un sit-in à Manfoura, à l'est du village de Baraka, pour rejeter le plan de l'occupant israélien et réclamer à la communauté internationale de mettre fin à ce plan colonial qui vise à les déplacer et qui constitue une transgression des résolutions de la légalité internationale. Le parti au pouvoir en Turquie cherche à faire du retour de réfugiés syriens une grande épopée de nature humaine dont il pourra s'attribuer la gloire. Dans ce drapeau, 50 000 logements construits par la Turquie à Idlib ont été remis aux réfugiés qui avaient regagné leur pays. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, s'est rendu illégalement en Syrie pour une cérémonie d'inauguration marquée par le discours en vidéo de Recep Tayyip Erdogan qui a promis le retour volontaire d'un million de réfugiés syriens. Le chef de l'État turc s'est adressé en vidéo à plusieurs centaines de Syriens lors de la cérémonie de remise des clés de milliers de maisonnettes destinées aux réfugiés de retour dans le nord-ouest de la Syrie. En réalité, cette campagne de propagande, qui s'appuie plutôt sur ces 50 000 maisons en briques, dont la construction reste peu coûteuse et très rapide, est censée aider le gouvernement d'Erdogan à apaiser une vague de critiques venue de la part de ses opposants, qui ciblent la présence de 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, une question devenue un grand défi pour l'AKP, au niveau politique et social aussi bien qu'au niveau économique. L'armée russe a annoncé mercredi 4 mai qu'elle allait ouvrir un couloir humanitaire de jeudi à samedi pour évacuer les civils de l'usine assiégée d'Azovstal à Mariupol, en Ukraine. Le couloir sera ouvert de 8h à 18h, heure de Moscou, 5h à 15h GMT, pendant 3 jours, a indiqué dans un communiqué le quartier général conjoint de coordination de la Russie pour la réponse humanitaire. Au cours de cette période, les troupes russes et les forces de Donetsk cesseront unilatéralement les hostilités et permettront aux civils de se retirer à la fois vers la Russie et vers les zones contrôlées par l'Ukraine, selon le communiqué. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont signé un accord visant à supprimer les droits de douane et les contingents tarifaires entre leurs deux économies, a annoncé mercredi 4 mai l'agence presse Ukrinform, citant le ministère ukrainien de l'économie. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont légalement entériné l'abolition des droits de douane et des contingents tarifaires dans leur commerce bilatéral en signant un accord, a déclaré le ministère. Cet accord de commerce préférentiel, qui sera en place pendant 12 mois, permettra de stimuler les exportations de produits à haute valeur ajoutée en provenance d'Ukraine, comme la farine, les céréales, les produits laitiers, la volaille, la purée de tomates, le miel, le maïs, le blé, les jus, les champignons et le sucre. Le mois dernier, l'Union européenne avait déjà décidé d'abolir les droits de douane et les quotas sur les produits industriels et alimentaires ukrainiens. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné l'attaque perpétrée mardi 3 mai par des membres du groupe Al-Shabaab contre une base burundaise de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dans la région du Moyen Chabélé, au sud-ouest de Mogadiscio. Sans préciser le nombre des victimes, Moussa Faki Mahamat a rendu hommage aux casques bleus burundais qui ont perdu la vie en aidant à ramener la paix et la stabilité en Somalie. Le président de la Commission de l'Union africaine a en outre lancé un appel à la communauté internationale pour accroître son soutien au service de sécurité somalien et à la mission ATMIS et relever les défis sécuritaires en Somalie. Mardi matin, les Chebabs ont attaqué un camp burundais de la mission de l'Union africaine en Somalie, faisant plusieurs morts selon plusieurs médias. Des autorités locales ont déclaré à Radio Mogadiscio que de fortes explosions ont frappé la base ATMIS tenue par les troupes burundaises, suivie d'un échange de coups de feu entre les troupes et les extrémistes. Les autorités burundaises n'ont pas encore officiellement réagi. Le président de la Commission de l'Union africaine est également adressé par téléphone au chef de l'État burundais pour lui adresser ses condoléances. Avec près de 5 000 hommes, le Burundi est le deuxième pays contributeur aux troupes de l'ATMIS, dont les effectifs représentent près de 20 000 militaires, policiers et civils issus de pays africains. L'ATMIS a formellement remplacé la force de maintien de la paix africaine en Somalie, AMISOM, avec un mandat prolongé fin mars dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection des Chebabs. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Redoutable front anti-sanctions US. Ces dernières années, Israël se dit particulièrement inquiet du développement des relations de l'Iran avec la Russie et la Chine. Dans ce cadre, Tel Aviv fait tout pour tenir les liens de Téhéran avec Moscou et Pékin. Des analystes israéliens estiment que l'accord de coopération sino-iranien de 25 ans neutraliserait efficacement la pression économique américaine contre Téhéran, renforcerait sérieusement la position de négociation de Téhéran et pourrait annoncer les efforts renouvelés des Iraniens pour développer ses activités régionales. Dans un article publié dans le journal Israel Hayom, Dan Shiftan, directeur du Centre des études sur la sécurité nationale à l'Université de Haïfa, a écrit « Alors qu'Israël était occupé par l'imbroglio politique intérieur, entourant les élections à la Knesset de la semaine dernière, une menace stratégique qui pourrait menacer l'existence même d'Israël se développait. Si l'alliance irano-chinoise atteint son plein potentiel, le Moyen-Orient pourrait à nouveau être entraîné dans une nouvelle guerre froide entre superpuissances. Selon lui, une aide chinoise massive à Téhéran pourrait apporter un soutien à l'Iran dans ses tentatives d'imposer son influence à la région dans le cadre d'une autre sorte de guerre froide qui se développe actuellement entre Washington et Pékin. Un tel soutien chinois, ainsi que le ton conciliant du président américain Joe Biden, pourrait constituer le genre de menace stratégique qu'Israël n'a pas vu depuis la guerre de 1973, a estimé Dan Shiftan. Le ministre chinois des Affaires étrangères a signé un accord stratégique de 25 ans avec l'Iran, établi pour la première fois lors de la visite du président chinois Xi Jinping en Iran en 2016, visant à déculper le commerce bilatéral à 400 milliards de dollars en 10 ans. L'accord permet également des exercices militaires conjoints et une coopération militaire à l'avenir. En outre, l'Iran est prêt à fournir à la Chine de grandes quantités de pétrole et de gaz à long terme. L'auteur a ajouté « Ce type d'accord sert à neutraliser efficacement la pression économique américaine, renforcer sérieusement la position de négociation de l'Iran et pourrait annoncer un nouvel effort iranien vers l'hégémonie régionale. » Le rythme de sa réalisation et ses caractéristiques peuvent influer aussi de manière cruciale sur les relations américano-chinoises. Depuis peu, les relations de la République islamique d'Iran avec la Chine et la Russie sont entrées dans une nouvelle phase. L'événement marquant est l'invitation du président russe Vladimir Poutine au président Ebrahim Raisi pour visiter Moscou au début de 2022 en vue de signer une prolongation d'un accord de coopération de 20 ans signé le 12 mars 2001 à Moscou. Ce nouveau partenariat intervient après la conclusion d'un pacte stratégique de 25 ans avec la Chine dans le cadre de la politique de regard vers l'Est et vers les pays voisins. La consolidation des liens avec les alliés chinois et russes survient donc dans un climat de défiance renforcée de la République islamique d'Iran vis-à-vis de l'Occident et en période de fortes tensions persistantes avec les États-Unis. L'intérêt de la Chine pour l'engagement économique avec l'Iran, malgré la politique de pression maximale de Donald Trump, repose sur plusieurs éléments, dont l'influence de l'Iran en Asie occidentale, l'approvisionnement énergétique et la position géopolitique de l'Iran. Les accords stratégiques de l'Iran avec la Chine et la Russie, l'un après l'autre, visent diamétralement à réduire la dépendance économique et politique vis-à-vis de l'Occident. La concession pour une période de 25 ans du port de Haïfa par le partenaire stratégique des États-Unis à la Chine en septembre dernier et la prolongation du traité de 1971 entre l'Inde et la Russie sont d'autres exemples d'accords stratégiques qui ne sont pas du goût des Américains. La puissance des États-Unis est en déclin. Et dans un avenir proche, nous verrons le transfert du pouvoir de l'Ouest vers l'Est et le renversement de l'ordre américain. De ce fait, le journal Ashar al-Awsat note que l'alliance entre l'Iran, la Chine et la Russie est la plus grande menace de 2022. La signature de l'accord de longue durée est susceptible d'influencer le processus des pourparlers de Vienne. La partie occidentale, voyant l'Iran qui évolue au niveau diplomatique aux côtés de grandes puissances, d'un autre œil.